Il y a seulement un siècle, ceci est mon introduction, Henri Poincaré, le mathématicien, dans une conférence sur la morale et la science, jugeait absolument inconcevable qu'un gouvernement ou un directeur d'établissement de recherche puisse se mêler de la morale des chercheurs. Claude Bernard, quand il a eu des ennuis avec les protecteurs des animaux, réagissait en disant « Ils ont leur morale, j'ai la mienne. » Elles sont différentes. Le chercheur a sa morale personnelle. Et la morale du chercheur, aussi bien aux yeux de Claude Bernard que de Henri Poincaré, est bonne. Je cite « Nous sentons que nous travaillons pour l'humanité et l'humanité nous en devient plus chère. Nous aimons l'humanité. » Depuis 1980, on trouve une pluie de publications. J'en cite quelques-unes ici qui sont typiques du départ, qui présentent la fraude scientifique comme inhérente à la science. Et ce n'est pas seulement un problème pour les scientifiques, ce n'est pas seulement une affaire de famille. Vous voyez que le Los Angeles Times, en 1988, dit que la fraude académique n'est plus seulement une affaire interne pour la science. Le gouvernement s'en mêle aux États-Unis, les universités réagissent, elles publient des livres qui traitent de la fraude dans la publication scientifique, et la National Academy of Science, l'Académie des sciences des États-Unis, sort une directive qui s'intitule « Science responsable, assurer l'intégrité du processus de recherche ». Je vais ici me faire l'écho de cette situation qui est véritablement un changement de culture. Jusque dans les années 1980, la fraude scientifique est connue, ou l'inconduite scientifique, mais c'est une affaire pour les historiens des sciences. La lecture de ces ouvrages est divertissante, effarante parfois, de véritables romans policiers. Mon but n'est pas d'en parler aujourd'hui, mais de parler d'un souci qui est devenu mondial, qui s'est globalisé. C'est le souci de l'intégrité de ce processus. Je procède en 4 points. Constatation d'un fait. Puis 3 questions. Est-ce que la fraude scientifique augmente? Pourquoi frauder? Et quels remèdes sont proposés? Mon premier point, c'est la constatation d'un fait. J'attire votre attention sur le fait que le fait constaté, ce n'est pas que la fraude scientifique augmente. C'est qu'on s'en occupe beaucoup. C'est ça le fait. Depuis 1980, les États, les institutions de recherche, interviennent pour s'assurer que les chercheurs se conduisent de façon responsable. Tout a commencé aux États-Unis, un petit peu avant 1980 pour les sciences biologiques et médicales et en 1980 pour l'ensemble des sciences. Aux États-Unis, la stratégie du ministère de la Santé a été de créer cet office de l'intégrité de la recherche, ORI, qui a été très actif, on va le voir, et la National Science Foundation. Vous avez là les 2 grands financeurs publics de la recherche aux États-Unis, la NSF, font progressivement de l'honnêteté scientifique une condition nécessaire à l'attribution des crédits de recherche. La difficulté de ce processus, c'est qu'on attribue les crédits de recherche avant que la recherche se fasse. Donc, comment savoir si les chercheurs sont honnêtes? Eh bien, le secrétariat de la santé américain va exiger peu à peu de toutes les institutions ou de tous les chercheurs qui demandent des crédits de recherche de donner, un, leur projet de recherche ou leur projet d'éducation de jeunes chercheurs. Deux, la preuve qu'ils ont pris une assurance contre l'inconduite dans la science. Et trois, ils doivent certifier qu'il y a dans l'institution où ils travaillent un programme d'éducation à la conduite responsable de la recherche. L'Europe a suivi ce mouvement en ordre dispersé et encore aujourd'hui, il n'y a pas d'unification au niveau européen et tout le monde le regrette. En Europe, certains grands organismes affichent sur le web leur charte d'éthique. Exemple, les instituts Max Planck ont mis en ligne depuis l'année 2000 non seulement des règles de bonnes pratiques scientifiques, mais encore des règles de procédure pour les cas où on suspecte une inconduite scientifique. Des règles de procédure. Si vous suspectez que votre voisin triche, vous devez suivre la procédure. Autre caractéristique en Europe, certains pays se sont donné le moyen de traiter les cas de fraude scientifique. Et par exemple, le Danemark, depuis 2007, a un comité de la malhonnêteté scientifique. Renversant, non ? L'European Science Foundation, qui est un corps qui finance beaucoup de recherches, a publié un document sur les bonnes pratiques et esquissé une enquête sur la façon dont les institutions travaillent en Europe, mais en fait, on a très peu de données empiriques sur la manière dont ça marche en Europe. La plupart des documents dont je ferai état sont américains, nord-américains. Les académies européennes, ALEA, All European Academies, ont publié un mémorandum sur l'intégrité scientifique et la Commission européenne a chargé un groupe d'experts de réfléchir sur l'intégrité dans la recherche. Quant aux institutions internationales basées en Europe, l'UNESCO, l'OCDE, elles ont beaucoup contribué à la réflexion sur le problème. On n'a pas dit encore ce qu'est le problème, hein, à la réflexion. Et par exemple, l'OCDE, en 2007, a organisé un forum mondial de la science à Tokyo avec les Japonais. Et d'un atelier de ce forum est sorti le rapport « Bonnes pratiques pour promouvoir l'intégrité scientifique et prévenir la fraude scientifique » qui a été présenté à la conférence de Lisbonne. La conférence de Lisbonne, c'est la mondialisation du problème. Elle a eu lieu en 2007. Elle s'intitulait « Intégrité de la recherche, promouvoir une recherche responsable ». Elle était organisée par la Fondation européenne, European Science Foundation, et l'organisme américain, ORI. Elle a réuni des chercheurs, des administrateurs de recherche, des financeurs de recherche, des éditeurs de journaux scientifiques, des représentants d'associations professionnelles, des politiques. Tout cela, non seulement pour promouvoir une conduite responsable dans la recherche, mais pour harmoniser les stratégies de traitement de l'inconduite scientifique. La seconde conférence mondiale a eu lieu cet été. C'est la conférence de Singapour qui marque l'entrée dans le jeu du monde asiatique aussi. À cette seconde conférence mondiale, l'Europe apporte un code de conduite européen pour l'intégrité de la recherche qui a été rédigé au mois de juin-juillet cette année, qui est assorti de recommandations pour l'avenir, qui déplore qu'il n'y ait pas de coordination des procédures entre les pays de l'Union. À cette conférence de Singapour, qui réunissait 350 personnes de 50 pays différents, a été rédigé un document qui a été finalisé il y a 3 semaines, le 22 septembre. Et ce document, qui est distribué à l'extérieur de cet amphi, est une déclaration sur l'intégrité de la recherche qui ne se donne pas comme quelque chose qui va réglementer la recherche, car Malheureusement, c'est écrit sur le document, chaque pays a sa propre réglementation et beaucoup de pays n'en ont aucune. Et la France ? En France, en ordre dispersé comme ailleurs en Europe, on a eu en 1988 le vote de la loi sur la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. Et dans la foulée de cette loi, les comités de protection des personnes qui se prêtent à la recherche se sont mis à fonctionner à partir de 1990. Les États-Unis ont réglementé dans ce domaine, ce n'est pas une loi aux États-Unis, c'est une réglementation du ministère, en 1981. Donc sur ce point, la France ne se tient pas trop mal dans la course à la réglementation. L'INSERM a créé en 1999 une délégation à l'intégrité scientifique qui fonctionne. Certaines universités se sont occupées de la question, en pointe l'université Claude Bernard de Lyon, qui offre à tous ses étudiants gratuitement un logiciel anti-plagiat. On trouve plusieurs logiciels anti-plagiat sur le web. J'indique une autre adresse. Et puis, en 2007, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a confié à M. Alix une mission sur l'intégrité scientifique qui a pour objectif de rappeler les principes qui la constituent, de les faire partager et discuter largement parmi les scientifiques à l'échelle nationale, alors nous participons ici à cette discussion, hein, et de contribuer ainsi au débat international en cours. La lettre de mission du ministère de l'Enseignement supérieur reconnaît que notre pays montre un certain retard là-dessus sur la scène internationale. Le rapport de M. Alix a été rédigé, il est en train de circuler dans les institutions. J'ai pu le consulter grâce à l'Académie des sciences. Il est encore confidentiel, mais je l'ai un peu utilisé, sans le citer. Maintenant, première question, si on s'en occupe tellement, est-ce que c'est qu'il y a une explosion de fraude ? Est-ce que la fraude scientifique augmente ? Voyez le titre de cet article paru dans Science en l'année 2000. L'inconduite scientifique, quelle est la prévalence de la fraude ? C'est une question à 1 million de dollars. Autrement dit, on n'en sait rien. Selon les sources, la proportion des fraudeurs est évaluée entre 1% et 35%, quelquefois plus. Cette proportion serait très élevée dans les sciences médicales, un peu moins dans les sciences de la vie et les sciences humaines, et assez modérée dans les sciences dites dures. À titre d'exemple, les instituts Max Planck, sur 5 ans, rapportent 22 cas d'inconduite suspectés dans leur laboratoire et soumis à instruction. 16 cas en biologie-médecine, 4 en physique-chimie et 2 en sciences sociales. Alors maintenant, nous allons nous poser tranquillement la question, qu'est-ce qu'on entend par ces inconduites ou ces fraudes ? Là-dessus, il y a eu des travaux américains dans les années 80 et une enquête faite par Mark Martinson et collaborateurs qui est parue dans Nature en 2005 et qui s'intitulait « Les scientifiques se conduisent mal ». Trois grands types de fraudes scientifiques. Les énormes fautes, les fautes très graves. Fabrication, falsification, plagiat, FFP en anglais. C'est devenu un mot anglais, FFP. Faute qu'on peut trouver dans des projets de recherche, dans l'exécution de la recherche, dans la procédure du peer review ou dans la citation de la recherche. Ensuite, vous avez un groupe de petites fraudes ordinaires qu'on appelle faute de conduite, misbehavior, vous avez arrangé vos données. Ça s'appelle en anglais « cooking data ». Vous avez traité assez mal les personnes ou les animaux sur qui vous avez fait de la recherche. Vous avez dissimulé les liens que vous aviez avec une entreprise qui va bénéficier de la recherche, liens financiers le plus souvent. Vous avez maltraité vos collaborateurs. Vous avez emprunté une idée à un autre en la faisant passer pour la vôtre. Vous avez omis de citer des résultats qui contredisent vos travaux. Vous avez fait obstacle à la publication d'un travail concurrent du vôtre. Les référés sont quelquefois suspectés de ça. Vous avez cité à l'appui de vos travaux des travaux contestables sans dire qu'ils sont contestables. Vous avez modifié votre plan d'expérience ou vos résultats sous l'influence d'un bailleur de fonds. Là, j'ai pu le constater une fois, ça existe. Lorsqu'il y a eu en Europe le premier grand essai de traitement du sida, c'était la firme qui produisait le médicament qui finançait la recherche. Et ce grand essai était sur des personnes séropositives non malades, avec l'idée qu'on allait prouver que le médicament était actif pour prévenir l'arrivée de la maladie chez des gens qui avaient le virus mais qui n'étaient pas encore malades. Dans la réalité, ça a été tout l'inverse. Il y avait plus de morts chez les gens qui avaient pris le médicament que chez les gens qui avaient pris le placebo. Quand on a dévoilé les résultats, les représentants de la firme ont allongé leur tête. C'était un spectacle magnifique. Mais ils ont fait pression sur les chercheurs pour obtenir qu'ils modifient les chiffres, qu'ils inversent le rapport. Les chercheurs ont résisté. Ils ne résistent pas toujours. Enfin, troisième catégorie, les négligences. Les deux premières catégories de fraude, la plupart des chercheurs interrogés jugent qu'elles devraient être sanctionnées. Sanctionnées, vraiment. Les négligences ne sont pas sanctionnables, mais ce sont des impropriétés. Par exemple, vous avez publié le même travail dans deux ou trois journaux différents. Ça vous fait trois articles au lieu d'un. Vous avez introduit dans la liste des auteurs des gens qui n'ont pas du tout contribué à la recherche. Bon, c'est des copains. Vous avez été imprécis sur votre méthodologie. Vous avez utilisé un plan d'expérience inadéquat. C'est de la mauvaise science, ça. Vous avez effacé quelques résultats qui s'éloignaient trop de ce que vous attendiez au motif que c'est un accident. Vous avez mal archivé vos spécimens ou vos cahiers d'expérience. C'est quelque chose sur quoi on insiste beaucoup récemment, de défaut d'archives. Maintenant, réfléchissons. Une fraude réussie étant une fraude non détectée, il est complètement illusoire pour évaluer la fréquence de la fraude de compter les cas de fraude confirmés officiellement. 1 pour 100 000 aux États-Unis, 1 pour 100 000 chercheurs. Ou bien de compter le nombre d'articles retirés de la base PubMed pour faute, les papiers rétractés. 0,02%. C'est des tout petits pourcentages. On dit que ce n'est pas grave, mais si on admet que les bonnes fraudes sont des fraudes que personne ne remarque, elles ne sont pas là. Alors déjà plus instructif, il y a eu un audit effectué par la Food and Drug Administration aux États-Unis sur des études. C'est une étude rétrospective sur des travaux qui avaient été réalisés entre 1977 et 1990. Ce qu'ont trouvé les gens qui ont réalisé cette étude, c'est qu'il y avait entre 10 et 20% des travaux qui avaient de gros défauts, c'est-à-dire qui faisaient de la vraiment mauvaise science, et 2% de travaux qui étaient clairement frauduleux. Ce n'est pas très encourageant, mais on dispose de quelques données empiriques, en particulier de données d'enquête réalisées auprès de chercheurs aux États-Unis ou en Grande-Bretagne essentiellement, qui approche la question. Ces enquêtes ont consisté à demander à des chercheurs de dire, sous le couvert de l'anonymat, bien sûr, s'il leur est déjà arrivé de frauder ou s'ils ont personnellement connaissance de chercheurs qui ont fraudé. Fanelli, c'est un article qui est paru l'année dernière, en ligne. Fanelli a analysé 21 enquêtes de ce genre publiées et a réalisé une méta-analyse qui a pu porter sur... On amalgame l'ensemble, hein, sur 18 de ces enquêtes. Le résultat de cette méta-analyse, je vous le donne très brièvement, est que près de 2% des personnes interrogées admettent avoir au moins une fois fabriqué, falsifié ou arrangé leurs données ou leurs résultats, c'est-à-dire la grosse faute. Et plus du tiers de ces personnes, sous couvert de l'anonymat, avouent d'autres pratiques contestables de la deuxième catégorie. Ce qui est plus grave, c'est que, interrogés sur les pratiques des collègues, plus de 14% des personnes interrogées disent qu'elles ont constaté des falsifications, des vraies falsifications, si j'ose dire, et 72% des personnes interrogées disent qu'elles ont constaté d'autres pratiques contestables. Des chiffres énormes. Un autre résultat est celui d'une étude financée par ORI portant sur des fraudes mineures, ce qu'on appelle les erreurs honnêtes, si on peut dire. Ça consiste à demander à des chercheurs s'il leur est arrivé d'intervenir auprès de collègues pour leur signaler qu'ils font quelque chose de contestable qui devrait être corrigé. Sur les presque 2600 réponses utilisables, il y avait presque 2200 personnes qui déclaraient avoir constaté une faute. Et les deux tiers de ces personnes disent être intervenues quand elles ont constaté cette faute. Celles qui ne sont pas intervenues, en général, savaient que quelqu'un d'autre intervenait. Donc, ce n'est pas là qu'est le problème. Quel a été le résultat de ces interventions? Dans 28% des cas, la faute a été effectivement corrigée, donc une issue bénéfique. Dans 27% des cas, la faute a été simplement niée, donc une mauvaise issue. Quelle impression en gardent ceux qui sont intervenus auprès de leurs collègues pour dire « Écoute, il ne faut pas faire ça ». Un gros tiers sont contents d'être intervenus, mais un autre gros tiers se déclare mécontent. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et quelle a été l'issue pour ceux qui sont intervenus dans ces circonstances? 1 sur 2 a été approuvé sur son lieu de travail, mais 1 sur 2 a vu sa carrière interrompue ou gâchée. Autrement dit, signaler une fraude, revient à jouer son avenir à pile ou face. Une autre remarque des auteurs de l'étude, c'est que les proches d'un chercheur qui fraude n'osent que très rarement intervenir. C'est un ami, vous comprenez, je ne peux pas lui dire ça. Même si l'avertissement peut épargner à cet ami un désastre. Il faut que je m'arrête ? 5 minutes ? J'avais préparé pour 25 minutes, moi. Alors, on en est réduit aux hypothèses. L'augmentation apparente de la fraude peut être un effet mécanique de l'augmentation du nombre de chercheurs ou du nombre de publications. C'est le publish or perish. Il semblerait que tout le monde s'en plaint. La quantité de la publication est telle qu'actuellement, les éditeurs sont submergés. Les reviewers n'ont pas le temps de travailler, donc il n'y a pas de tri bien fait. La date tournant dans l'aggravation de la situation est jugée 1980, quand aux États-Unis, les administrateurs des universités ont commencé à mesurer la productivité des collègues au nombre des publications. Au nombre des publications, qui a entraîné une augmentation de 200 à 300% du nombre des publications. Une autre hypothèse qui a été émise par des Américains très réactifs, c'est tout récent, dans Nature, en juillet de cette année. Titus et Bosch sont d'ailleurs extrêmement sévères et probablement injustes. Ils disent « Depuis 30 ans, on fait des efforts pour promouvoir l'intégrité de la recherche, ça ne s'améliore pas, ça résiste. Où sont les résistances à la promotion de l'intégrité ?» Et ils commencent par tomber à bras raccourcis sur les jeunes, en disant « Les jeunes qui arrivent à l'université ont un niveau scientifique lamentable, ils ont besoin de cours de rattrapage en sciences, et en plus, ils ont été éduqués dans une ambiance de triche généralisée, ils ne savent pas, ils vont copier sur le web, ou ils téléphonent à un copain qui va leur dire. Hein. Nous avons là, disent-ils, derrière nous, une génération de tricheurs, qu'ils soient chercheurs ou banquiers. » Leur deuxième observation, c'est que la politique de promotion de l'intégrité a en fait été combattue par les scientifiques eux-mêmes qui ont fait un lobbying tenace, prétendant que les enseignements d'éthique sont une perte de temps et qu'il suffit d'une bonne formation scientifique pour faire de bons chercheurs. Enfin, troisième obstacle, la culture du secret. Quand une fraude se produit dans un laboratoire, la tendance est à étouffer l'affaire. C'est une culture que nous pratiquons très bien en France. Les auteurs de cet article-là, qui est un article d'opinion, concluent qu'il faut changer de culture, c'est-à-dire qu'il faudrait promouvoir dans les institutions de recherche une fierté d'avoir dans cette institution une recherche propre, clean research. Un cas à part est celui du plagiat. Il est paru il y a quelques mois un livre de Jones qui s'appelle « Le piratage, les guerres de la propriété intellectuelle ». Et ce livre montre avec assez d'humour, au fond, que les plagiaires, dont certains sont extrêmement célèbres comme Ptolémée, qui n'a pas du tout fait son système du monde en regardant les astres, mais en recopiant dans une bibliothèque, que les plagiaires sont à la fois d'affreux pirates qui usurpent la propriété intellectuelle d'autrui et aussi des héros bienfaiteurs de la science qui libèrent les idées neuves des monopoles privés pour les faire circuler. Car c'est vrai, la science est une œuvre collective, la libre circulation des idées lui est nécessaire. Et ça, on le dit depuis deux siècles, c'est-à-dire depuis que la science moderne est efficace, effective. Herschel, par exemple, disait que les idées scientifiques s'améliorent à force d'être repensées par un grand nombre de chercheurs. La revue Nature, sur le plagiat, quand elle présente, elle a recommandé la lecture du livre de Jones et son commentaire est que la notion de piratage est au cœur de la science et de la technologie. Ça n'est pas un problème marginal, c'est un problème qui est au cœur. Et en fait, si l'on y réfléchit, il n'y a qu'un tout petit pas du texte recopié à la citation correctement référencée. D'où le succès des logiciels anti-plagiat, qui transforment ce qui est une fraude en ce qui est une gloire. Je sais que tel auteur a dit que. Alors, je me pose maintenant la question, pourquoi frauder ? Vous acceptez qu'on la pose ? Je vais aussi vite que je peux. Alors, là, essayons de raisonner. Comment un chercheur peut-il vouloir frauder alors que, d'abord, il y a un consensus mondial, il n'y a aucun problème d'éthique là-dedans. Tout le monde condamne la fraude. Tout le monde sait que c'est mal, tout le monde dit que c'est mal, tout le monde dit que c'est haïssable. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est moralement blâmable, nuisible à la science, et que ça donne de la science une image détestable. D'autre part, il faut reconnaître que la fraude nuit à son auteur quand elle est décelée. Au minimum, le fraudeur se déconsidère. Au pire, sa carrière est ruinée. Alors, j'avais pris un certain nombre d'exemples là. Je vais le passer. Ce sont des études de cas. Mais elles montrent que quand une fraude est découverte, le chercheur ne s'en sort pas indemne du tout. Par exemple, le médecin anglais qui a complètement fabriqué les données qui montraient qu'il y avait un lien, soi-disant, entre l'autisme et le vaccin d'argol rubéole au rayon, il a été rayé de la liste des médecins pour sérieuse inconduite professionnelle. Vous me direz maintenant, il exerce aux États-Unis, il a quitté l'Angleterre. Hein ? Bon. Tout de même, un article rétracté, ça c'est l'article du fameux Hong, le Coréen, ça fait mal quand ça paraît dans un journal où on avait publié un article glorieux et où 6 mois ou 8 mois après, on voit rétracté avec un commentaire du rédacteur en chef du journal, vous l'avez là, qui explique pourquoi on retire. Hein, parce que les données ont été fabriquées, entièrement fabriquées. Bon, c'est affreux. Donc, aucun chercheur ne peut lucidement vouloir que sa carrière soit ruinée, sa mémoire salie. Bon. En conséquence, ou bien le fraudeur ignore qu'il triche, ou bien, s'il sait qu'il triche, il croit que le risque d'être démasqué est négligeable par rapport à l'avantage que donne la triche. Un risque se définit comme une probabilité pondérée par une gravité. Le risque sera jugé négligeable si la probabilité d'être démasqué est faible ou si la sanction encourue est bénigne. D'où la distinction entre fraude petite et grande fraude. Les petites fraudes, la sanction encourue est bénigne ou elle peut être rendue bénigne avec un peu de négociation. Tandis que les grosses fautes, il faut qu'elle soit très improbable. Alors, ce raisonnement vaut pour les travaux scientifiques publiés dans le cadre de la publication scientifique. Si un chercheur s'adresse à un public hors de la communauté scientifique, il peut frauder tant qu'il peut, le grand public n'est pas apte à juger. Et on voit à ce moment-là des fanfaronnades de faux savants qui, malheureusement, trompent les gens. Ça se voit beaucoup en médecine. La conclusion provisoire qu'on peut faire à la question, c'est que le chercheur qui fraude pense que sa fraude ne sera pas détectée, pas vue, pas pris, pas puni. C'est une situation très embarrassante, parce que pas vue, pas pris, pas puni, ça veut dire, si c'est très répandu, que pour détecter les fraudes, on ne sait pas comment s'y prendre. Alors, c'est mon dernier point. Quel remède ? Que faire ? Comment se conduire ? Je distingue 3 cas. Le cas du plagiat est relativement simple. La prévention, je l'ai dit, par la mise à disposition de logiciels de détection. La détection a été mise en action déjà par les éditeurs de journaux scientifiques qui ont créé cette banque qui s'appelle CrossCheck. C'est assez récent, mais ça fonctionne déjà, semble-t-il. Les éditeurs de journaux scientifiques ont décidé de mettre ensemble tous les manuscrits qu'ils reçoivent pour publication dans une banque commune qui serait capable de dire à l'entrée d'un nouvel article si ça ressemble à un des articles qu'on a déjà dans la banque, ou si ça ressemble en tout ou en partie à quelque chose qui est déjà là. Des sondages ont été faits pour mettre en évidence le nombre de cas dans lesquels ça rencontre quelque chose qui a déjà été là. Et le sondage fait par Taylor et Francis a montré qu'il y avait, selon le type de revue visée, 6%, 10% et 23% de plagiat. Ça permet déjà aux éditeurs de nettoyer un peu parmi les manuscrits qu'on leur propose ceux qui ne méritent pas d'être publiés. Cependant, car la sanction, c'est la non-publication. Mais il y a encore là des problèmes non résolus. Le premier problème, c'est est-ce que c'est une faute de se plagier soi-même ? C'est-à-dire de se répéter. Quand vous êtes un professeur, vous vous répétez. Et l'autre problème, c'est qu'une fois que deux articles ou deux morceaux d'articles ont été détectés comme très semblables par la base informatique, il reste à juger si c'est un vrai cas de plagiat ou bien si c'est explicable ou excusable d'une façon ou de l'autre. Et ça, c'est beaucoup de temps et de travail pour les experts. Et les experts renâclent un peu à faire le travail. Il paraît cependant que c'est une grande satisfaction d'épingler un cas flagrant de copiage. Bon, alors, mon deuxième cas, c'était le respect de l'objet étudié. Ça, on l'a résolu d'une certaine façon avec l'examen du projet de recherche, du protocole de recherche par des comités de protection des personnes ou de protection des animaux. Et il commence à y avoir quelque chose qui se dessine comme ça pour la protection du milieu naturel. Mais ça, c'est la protection de ce sur quoi on opère la recherche. En ce qui concerne les fautes inhérentes au contenu de la recherche, le principal facteur qu'on a proposé de corriger, c'est le sentiment d'injustice éprouvé par les chercheurs qui, paraît-il, augmente le risque qu'ils se mettent à frauder. Mais cela est lié à la structure même du marché du travail dans le monde de la recherche, qui se caractérise par le fait qu'on produit beaucoup plus de chercheurs qu'on ne peut en employer, que du coup, le coût du travail dans la recherche est très bas et la productivité très élevée à cause de la compétition. Et ça, c'est vrai que le corriger, c'est changer de culture. Et voilà les remèdes qui ont été proposés et qu'on trouve dans différents articles sur le sujet. Les universités devraient former juste le nombre de diplômés que la recherche peut employer dans chaque discipline, ce qu'elles ne font pas. Les recrutements de chercheurs ne devraient pas se décider en fonction du nombre de leurs publications, mais en fonction de la qualité du contenu de leurs publications. Troisièmement, les écoles, les institutions de recherche devraient avoir des programmes d'éducation en RCR, comme on dit en anglais, conduite responsable de la recherche, ou en RIB, comportement institutionnel responsable. Quatrièmement, tout financement devrait être soumis à des conditions qui ne sont pas seulement de la qualité scientifique, mais qui sont aussi des engagements de bonne conduite pratique. Enfin, il faudrait quitter la culture du silence, c'est-à-dire analyser les cas de fraude de façon transparente, ce qui ne se fait pas. Je vous remercie.
Je vous remercie beaucoup, ma chère collègue, de cet exposé très détaillé, dont je remarquerai qu'il est également très diplomatique, puisqu'il n'a été à aucun moment question de la France, où nous n'avons pas connu ni problème de mémoire de l'eau, ni de co-découverte du virus du sida, et que vous n'avez pas non plus fait, pour me faire plaisir, vous n'avez pas fait état de la fraude dans les sciences humaines, qui est encore plus difficile à déceler. Et après une théorie de la fraude, je donnerai la parole à un praticien, enfin pas de la fraude, de la recherche.
Effectivement, s'il y a une chose à laquelle je ne me suis vraiment jamais intéressé dans ma vie, c'est à cette question de la fraude scientifique. C'est pour ça que quand mes deux collègues m'ont demandé d'intervenir comme discussant là-dessus, j'ai pensé que je pourrais répondre éventuellement, mais je dis pourquoi moi Comprenez bien qu'en patinage artistique, ça s'appelle les figures imposées, au risque de terminer à quatre pattes, mais ce n'est pas très grave. J'aimerais en fait prendre les choses de façon un tout petit peu différente. Je ne suis pas du tout puritain, je suis moraliste, mais je ne suis pas puritain. Et je méfie toujours de tout ce qui est un relent de puritanisme dans quelques communautés que ce soit, y compris dans la communauté des savants. Je pense que c'est tout à fait contraire à l'esprit même de la science, qui est une aventure un petit peu imaginative, plaisante, ludique, en même temps qu'on peut l'espérer parfois utile. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est revenir sur, d'une certaine façon, la mondialisation. On l'a dit hier, on l'a répété aujourd'hui, la mondialisation n'est pas quelque chose de nouveau. Galilée discutait avec Kepler. Bon, ce n'était pas la même forme d'orbite, mais ce n'était pas très grave. Galilée n'avait pas grand-chose à faire. Lui préférait que ce soit circulaire, l'autre était elliptique. Descartes était dans la discussion, et puis il s'en est sorti un petit peu sur la pointe des pieds. Giordano Bruno avait été brûlé une cinquantaine d'années plus tôt, ce n'était pas la peine de prendre des risques inutiles. Ce que je peux comprendre d'ailleurs. Ce n'était pas une fraude d'ailleurs, mais simplement un silence bienvenu sur cette affaire. Ce qui a changé aujourd'hui, d'une certaine façon, ce n'est pas tellement la mondialisation, c'est la nationalisation extraordinairement forte, une incroyable en fait, chauvinisme scientifique. Les classements de Shanghai qui se donnent par internationaux sont en fait une façon de classer les gens sur des critères qu'on aura choisis soi-même, probablement, pourquoi pas, je veux dire, ça ne me dérange pas, mais y a pas, l'internationalisation, elle a à la fois augmenté et en même temps, elle est diminuée, pour des raisons assez évidentes, c'est que la science n'est plus, vous voyez, j'improvise puisque je n'ai pas préparé, c'est une discussion, n'est plus ce que nous aimions qu'elle soit, et n'est plus entièrement ça en tout cas, elle n'est plus cette conversation entre amis, conversation musclée parfois, mais quand même une conversation entre amis qui se poursuit à travers les siècles d'ailleurs, parce que évidemment Galilée pouvait discuter avec Copernic, on reprenait cette longue discussion, et c'est ça qui au fond est la beauté de la science. Vous avez entendu ce matin Gabriele Veneziano, et vous avez regardé ça, et ce qui vous a frappé, ce n'est pas la technologie. Ce qui vous a frappé, c'est le souffle, c'est la beauté de la chose. C'est l'origine de l'idée d'aller chercher la structure intime de la matière, l'histoire de la Terre. Et ce souffle poétique qu'il y a dans la science, parce que fondamentalement, la science est aussi une activité poétique qui fait appel à l'imagination, qui fait appel au risque, hein, est quelque chose qui, moi, évidemment, ce matin, m'a touché, parce que l'art-science, ce n'est pas simplement des belles images, parce qu'elles sont jolies, on dit que c'est artistique. L'art-science, c'est souvent sentir dans une activité intellectuelle d'un être humain cette activité poétique qui est à l'œuvre. Et bien entendu, quand on voit son métier comme ça, j'entendais hier Pierre Joliot, et je ne peux pas être plus d'accord, j'aurais signé tous les mots qu'il pouvait dire, quand on voit son métier comme ça, eh bien, on ne peut même pas comprendre ce que c'est qu'une fraude. Hein, parce qu'on n'a plus de plaisir. Quel peut être le plaisir à être le premier si on sait qu'on a fraudé? Quel plaisir à être le seul, Pierre, si on sait qu'on est le seul et qu'on a fraudé? C'est totalement absurde, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que c'est un problème sur lequel je ne me suis jamais vraiment penché. Ça ne m'a même pas effleuré qu'on puisse faire des choses comme ça. Et au fond, à vrai dire, quitte à blesser tous les comités d'éthique, de super-éthique, de contrôle et toute la police des mœurs, au fond, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est le métier que je fais, de le faire le mieux, et d'avoir cette conversation avec les gens avec qui je converse, et que je connais suffisamment bien pour savoir que c'est une conversation amicale et fructueuse. Alors, évidemment, on ne peut pas entièrement ignorer l'affaire. Si je voulais frauder, qu'est-ce que je ferais? Je n'aurais pas trouvé quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire, d'abord, ça n'a aucune chance, ou très peu de chance d'être publié, parce qu'il y a une sociologie du milieu scientifique à faire, comme disait ce matin Philippe Kourilski. Je pense qu'elle est urgente de faire cette sociologie, en particulier au niveau de comment on publie, qui publie, où publie-t-on, pourquoi, comment est-ce qu'on place un de ces anciens post-docs dans un comité de rédaction, de telle sorte à faire passer ses articles plus facilement et empêcher ceux des concurrents de passer, si possible. Ou alors faire passer ceux des copains qui soutiennent la thèse, etc. Donc, oui, il y a une petite question sociologique à poser sur comment fonctionne la cité des savants. Ce n'est plus la cité idéale, hein, c'est une cité extrêmement structurée. Les enjeux de pouvoir, les enjeux économiques sont très forts. Donc, ça intervient dans toutes ces questions que vous avez soulevées. Ça intervient, je pense, à un niveau extrêmement profond. Mais si je voulais frauder, qu'est-ce que je ferais? Je ne reverrais pas un article qui révolutionne. Il serait jamais, on n'y croirait pas, même si c'était vrai. Non, je choisirais quelque chose qui est tout à fait concevable. Hein? Quelque chose de très très proche de ce que les gens publient tous les jours. avec peut-être un petit truc en plus, comme ça, mais juste, vous savez, une petite cerise, un petit peu de poudre en sucre, sucre en poudre, machin, un truc par-dessus. Et ça, ça passerait tout seul, bien entendu, ça passerait tout seul, parce que devant, ça n'étonnerait personne. En plus, ça pourrait éventuellement aider un Manitou ou un gang qui a passé ses copains comme éditeur dans le journal, donc ça borde de l'eau à son moulin, donc là, ça a à voir avec la sociologie du système. Et puis personne, tout le monde s'en fiche, parce qu'il y aurait au moins 4 articles sur le même thème dans ces revues extrêmement compétitives, bien entendu, où on a très très peu de place, et on voit dans Lourdes, on a 4 articles sur le même sujet, ça prouve que c'est très original et très intéressant, parce que ça vient de 4 laboratoires différents. Mais ça n'étonnerait personne. Donc au fond, c'est toutes les fraudes qu'on ne voit pas. Hein. Donc c'est un peu, vous savez, comme il y a une façon de faire des best-sellers. Moi, je voulais écrire un livre, je ne sais pas, dans la collection Harlequin. Bah, je sais qu'il faut mettre un médecin assez beau, la quarantaine, avec les tempes un peu grisonnantes, une infirmière très dévouée, une dame qui est en train de mourir d'un cancer du sein. Enfin, il y a des éléments de base, si vous voulez, pour faire ça. Finalement, voilà, quoi. C'est comme ça qu'on fait un best-seller. Donc on peut... Ces tricheries-là, vous n'irez jamais les voir, parce qu'au fond, tout le monde s'en fiche. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que ce qu'il faut... Essentiellement, si on veut lutter contre ça, parce que c'est un vrai problème, évidemment. Si vous ouvrez votre journal et vous dites lequel est vrai là-dedans, mais non, c'est embêtant. Je ne parle pas des histoires sur les animaux, les machins, les trucs, je trouve que ce n'est pas le sujet. Il y a aussi des gens, il y a des botanistes qui trichent aussi, ils martyrisent les plantes, j'en vois un là-bas. Mais je pense que si on veut lutter contre ça, ça veut dire qu'il faut, un, faire la sociologie du système et peut-être changer le système, d'une certaine façon. Et je pense que ce que nous a dit ce matin Philippe, ce qui est extrêmement intéressant. Je crois qu'effectivement, nous manquons, nous avons peut-être trop de censeurs, mais pas assez de chercheurs qui peuvent étudier ce que c'est aujourd'hui que le milieu scientifique. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui que de faire de la science? Et puis, tout le monde n'est pas pareil. Les gens qui sont subis, il y a cette pression extraordinaire. Effectivement, il y a cette pression qui est très, très forte. Mais dans un même laboratoire, il y a 2 personnes qui sont subies à l'impression. Il y en a un qui triche, l'autre qui ne triche pas. Donc la pression, ce n'est pas uniquement la seule raison. Il y a, je crois, il y a un autre problème aussi qui oui, je vais comme je n'ai pas préparé, évidemment, forcément mauvais, mais il y a une fonction ascenseur social de la science aussi. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a une course aux honneurs qui fait que, on veut y arriver. Hein. On ne fait plus ça. Ce n'est plus une époque où on fait ça uniquement par plaisir. Il y a aussi une fonction ascenseur social qui est très forte. Il faut réfléchir à cette fonction. Il y a des gens pour qui réussir en science, c'est de toute façon sortir de quelque chose qui est... ils s'en sortent comme ça. Donc, ils ne sont pas à armes égales, forcément. Ils arrangent une courbe, un petit peu, un truc comme ça. Ce n'est pas que j'ai de la sympathie pour ça du tout. J'ai la plus grande antipathie pour ça. Et les gens qui me connaissent savent bien que je mets tous les points les plus aberrants dans mes trucs. C'est peut-être pour ça que j'ai dit à la publier. Mais... parce que si je lissais mes courbes, ce serait peut-être plus simple. Mais non. Cela dit, je ne crois pas que ce soit le problème le plus grave. Je crois que le problème le plus grave, c'est que la science, ça doit être avant tout une aventure ludique, imaginative, plaisante, et qui trouve en son seul exercice sa première récompense. Hein ? Quand vous faites une belle découverte, fausse ou pas, il y a une part de risque, sinon ce n'est pas la peine. Hein ? Je m'attendais ce matin à parler des masses et des masses de données et qu'on ne peut plus les analyser. Si vous mettez toutes les données qu'avait Darwin dans un ordinateur, hein, est-ce que vous allez sortir avec la théorie de l'évolution ? Pas forcément. Il fallait Darwin, il fallait un type qui prenait du plaisir et qui avait de l'imagination et de l'intuition. Et cette chose-là, c'est quelque chose d'extraordinairement important à faire comprendre qu'il y a encore une aventure individuelle dans la science, il y a encore un plaisir à prendre pour soi dans la science, et je crois que c'est un message que nous devons faire passer. Si nous recrutons des gens, et si nous sélectionnons des gens sur le principe, ce genre de principe, si nous prenons dans le laboratoire des gens dont nous voyons qu'ils ont en eux cette espèce de force poétique, je ne vois pas d'autre terme, et en même temps cette rigueur intellectuelle, bien entendu, je crois bien que nous aurons résolu une grande partie du problème, si tant est que ce problème soit quelque chose d'aussi important que certains veulent bien le dire. qui en font leur gagne-pain. Merci.